Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Elodie Skouwaerts. Nous allons commenter ensemble la nouvelle législation relative à la motivation du licenciement secteur public, législation qui a été adoptée le 13 mars 2024 et qui entre en vigueur le 1er mai. Alors, Elodie, peux-tu nous expliquer tout d'abord le contexte dans lequel la loi a été adoptée ?
Avant 2014, la législation sociale belge ne prévoyait pas d'obligation de motiver le licenciement, sauf dans certains cas, par exemple le motif grave. Le paradigme de l'époque était que la longueur des préavis constituait une garantie de stabilité suffisante. À l'époque, les ouvriers disposaient cependant de préavis nettement plus courts. Et donc c'est pourquoi le législateur avait mis en place un mécanisme compensatoire contraignant les employeurs à être en mesure à démontrer que le licenciement de l'ouvrier repose sur des motifs liés à la conduite, à l'aptitude ou aux nécessités de l'entreprise, sous peine de lui être redevable d'une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération. C'est le fameux article 63 de la loi du 3 juillet 1978. En 2011, la Cour constitutionnelle juge que la différence de préavis entre les ouvriers et les employés est inconstitutionnelle, ce qui conduit le législateur à harmoniser ces délais par la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique. Dès l'instant où le législateur avait gommé la différence de traitement entre ouvriers et employés au niveau des préavis, la mesure compensatoire prévue en faveur des seuls ouvriers, donc l'article 63 que j'ai mentionné, ne se justifiait plus. Le législateur a donc prévu de faire disparaître cette disposition. De manière plus précise, la loi du 26 décembre 2013 prévoit que l'article 63 sera abrogé pour les employeurs soumis au système de concertation du secteur privé dès que le Conseil national du travail aura adopté une convention collective de travail réglant la question de la motivation pour l'ensemble des travailleurs, ouvriers comme employés. Et pour les autres employeurs, donc la majorité du secteur public, lorsqu'une législation analogue aura été adoptée pour traiter la question. Si dans le secteur privé, l'adoption de la CCT n'a pas tardé, le Conseil national adoptera en effet dès le 12 février 2014 la CCT numéro 109 concernant la motivation du licenciement. Dans le secteur public, il a fallu attendre près de 10 ans pour que le législateur intervienne enfin. Et durant ces 10 années, la jurisprudence a tenté tant bien que mal de pallier à l'inaction du législateur, ce qui avait suscité une importante insécurité juridique. L'adoption de la loi du 13 mars 2024 est donc une excellente nouvelle.
Très bien, donc ça c'est le contexte qui est maintenant très clair. Qui est visé par cette nouvelle législation ?
Comme je viens de le rappeler, l'intention du législateur était d'organiser un système de motivation du licenciement en faveur des travailleurs sous contrat de travail qui ne pouvaient pas se prévaloir des règles instaurées par la CCT 109. C'est pourquoi le législateur a prévu que la nouvelle loi ne s'applique qu'aux employeurs et aux travailleurs qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cela vise donc essentiellement les contractuels de la fonction publique ainsi que les membres du personnel subventionné de l'enseignement libre. Ensuite, la loi s'applique en cas de licenciement uniquement. Le législateur a cependant exclu du champ d'application de la loi certaines situations particulières de licenciement que les partenaires sociaux avaient déjà exclues dans le champ d'application de la CCT 109. Ainsi, la loi ne s'appliquera pas dans cinq situations. 1. Lorsque le travailleur est licencié durant les 6 premiers mois d'occupation. 2. S'il est occupé dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat d'intérim. 3. En cas de licenciement en vue de mettre fin à un contrat de travail à l'occasion de la pension du travailleur. 4. Lorsqu'une procédure particulière de licenciement est organisée par ou en vertu de la loi, ce qui est le cas notamment pour les conseillers en prévention. Et enfin, en cas de motif grave.
Très bien. Quelles sont ou seront les obligations de l'employeur ?
Dans la première version approuvée par le gouvernement en décembre 2022, le projet de loi ne prévoyait que 2 obligations à charge de l'employeur. d'une part une obligation de notifier le licenciement par écrit et de motiver formellement ce courrier en précisant les motifs concrets du licenciement, et d'autre part l'interdiction de licencier un travailleur sous CDI pour des motifs étrangers à la conduite ou à son aptitude ou aux nécessités de l'entreprise, en intégrant dans la loi le concept de licenciement manifestement déraisonnable tel qu'instauré par la CCT 109. L'obligation de motivation formelle des licenciements mis à charge des employeurs publics diffère cependant de celui organisé par la CCT 109. Dans le secteur privé, il s'agit d'un système de motivation à la demande. Autrement dit, les employeurs privés n'ont l'obligation de transmettre la motivation du licenciement au travailleur qu'à partir du moment où ce dernier la réclame dans un certain délai. Dans le secteur public, les employeurs auront dorénavant l'obligation de motiver directement le licenciement au moment de la notification du congé. Au cours des négociations qui ont précédé l'adoption de la loi, les syndicats ont insisté pour que l'obligation d'audition préalable soit également inscrite dans la loi. C'est ainsi que l'article 3 de la loi prévoit désormais que les employeurs publics, s'ils envisagent de licencier le travailleur pour un motif lié à sa personne ou à son comportement, doivent inviter préalablement le travailleur à être entendu. La loi précise que l'employeur doit dans ce cas communiquer les faits reprochés au travailleur dans un délai suffisant pour préparer son audition ou formuler ses observations par écrit. Cette obligation d'audition préalable avait déjà été consacrée par la jurisprudence, notamment par la Cour constitutionnelle qui avait jugé en 2017 que le fait qu'une telle obligation ne soit pas prévue en faveur des contractuels constituait une discrimination au regard de la situation des agents statutaires. Elle avait décidé qu'il en allait de même en cas de motif grave dans un arrêt du 22 février 2018. À mon sens, cet enseignement demeure d'application. Le fait que la loi ait exclu de son champ d'application le motif grave ne doit pas conduire les autorités à considérer qu'il ne faut plus entendre les travailleurs dans ce cas. Il apparaît également prudent de continuer à offrir aux travailleurs entendus les garanties qui avaient été consacrées par la jurisprudence antérieure, malgré le fait que le législateur ne les a pas reprises dans la loi. Je pense notamment au droit pour le travailleur d'être assisté d'une personne de son choix durant la procédure et d'accéder au dossier constitué par l'autorité.
Très bien. Qu'advient-il si l'employeur ne respecte pas toutes ses obligations ?
Dans ce cas, l'employeur est redevable d'une indemnité équivalente à 2 semaines de rémunération s'il omet d'entendre préalablement le travailleur ou de motiver le licenciement. Le texte ne permet cependant pas de déterminer si une seule indemnité est due si l'employeur omet à la fois d'entendre le travailleur et de motiver le licenciement, ou si au contraire, chacune de ces infractions donnera lieu à une indemnité. Il appartiendra à la jurisprudence de trancher cette question. L'absence de motivation du licenciement a également pour effet d'alourdir la charge de la preuve pesant sur l'employeur lorsqu'il s'agira de démontrer que le licenciement qu'il a adopté n'est pas manifestement déraisonnable.
À ce propos, peux-tu nous en dire plus sur la notion, le concept de licenciement manifestement déraisonnable ?
Comme expliqué, ce concept est repris de la CCT 109. Contrairement à l'obligation d'audition et de motivation formelle, cela ne concerne que les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le licenciement est manifestement déraisonnable si il est fondé sur un motif qui n'a aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, et si la décision de licencier n'aurait jamais été prise par un employeur normal et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances. Autrement dit, que va vérifier le juge ? D'abord, si le motif invoqué appartient à une des 3 catégories que je viens de mentionner, et si la réalité du motif est prouvée, il appartiendra à l'employeur d'apporter cette preuve, raison pour laquelle il est préférable d'avoir un dossier solide avant de lancer la procédure. Ensuite, le juge vérifiera que le motif invoqué est bien la cause réelle du licenciement. Le travailleur pourrait en effet tenter de démontrer que la cause réelle du licenciement n'est pas celle renseignée dans la motivation, mais un motif moins avouable. Enfin, le juge s'assurera que la décision n'est pas manifestement déraisonnable. Lorsque l'employeur a omis de motiver le licenciement, la loi prévoit qu'il doit démontrer non seulement la réalité des motifs du licenciement, mais également les autres conditions que je viens de citer, à savoir que le licenciement n'est pas lié à un autre motif et qu'il aurait pu également être adopté par un employeur normalement prudent. Si le licenciement est jugé manifestement déraisonnable, le juge condamnera l'employeur à verser au travailleur une indemnité correspondant à un minimum de 3 semaines et à un maximum de 17 semaines de rémunération brute.
Pour rester sur les règles en termes d'indemnité, cette indemnité-ci, est-ce qu'elle est cumulable avec d'autres indemnités ?
Tout comme dans la CCT 109, l'indemnité ne se cumule pas avec les indemnités dues par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail. À l'exception toutefois de celle du préavis, l'indemnité de non-concurrence, d'éviction, les indemnités complémentaires payées en plus des allocations sociales et bien entendu la sanction de 2 semaines qu'elle prévoit en cas d'absence d'audition ou de motivation formelle de licenciement.
Alors, cette loi que tu commentes aujourd'hui, est-ce qu'elle est déjà en vigueur ?
La loi entre en vigueur le 1er mai 2024. Les obligations que je viens de citer s'appliqueront donc au licenciement notifié à partir de cette date.
Très bien. Pour terminer, as-tu des conseils, des recommandations pratiques à donner aux employeurs publics qui envisageraient le licenciement d'un travailleur ?
La première chose à faire lorsque vous envisagez de licencier un travailleur est de vous assurer que vous disposez d'un motif légalement acceptable et d'un dossier suffisamment solide pour prouver ces motifs. Je vous conseille également de vous assurer que la personne que vous envisagez de licencier ne bénéficie pas d'une protection particulière, comme c'est le cas des conseillers en prévention ou des femmes enceintes, et que votre statut ou votre règlement de travail ne prévoit pas des obligations particulières à votre charge en cas de licenciement. Si le licenciement que vous envisagez d'adopter repose fût-ce que partiellement sur un motif lié à la conduite ou à la personne du travailleur, vous devrez le convoquer pour une audition préalable. Cette obligation s'impose selon moi également lorsque le licenciement est justifié par la désorganisation du service occasionnée par les absences du travailleur. Il s'agit en effet d'une situation liée à sa personne. Plusieurs juridictions du travail se sont en effet prononcées en ce sens ces dernières années. Dans la convocation, n'oubliez pas de préciser l'objet de l'audition, le fait qu'un licenciement est envisagé, ainsi que les motifs précis qui vous poussent à envisager cette mesure. Je recommande également de rappeler dans la convocation que le travailleur a le droit d'être assisté par un conseil lors de l'audition, ainsi que les modalités pour accéder au dossier lorsque celui-ci n'est pas joint au courrier. Au cabinet, nous intégrons également une clause indiquant au travailleur que s'il s'estime incapable d'assister à l'audition, il convient qu'il se fasse couvrir par un certificat circonstancié de son médecin. La loi indique qu'il faut laisser au travailleur un délai suffisant pour préparer sa défense, sans donner la moindre précision sur ce qui est ou non suffisant. Au regard de la jurisprudence antérieure, il me semble qu'un délai de 8 à 10 jours ouvrables répond à cette condition. Si après avoir entendu le travailleur, l'autorité prend la décision de le licencier, elle devra dorénavant le faire par écrit en précisant dans celui-ci les motifs concrets du licenciement. Il ne faut pas se contenter de motivations stéréotypées, comme on peut parfois en retrouver sur les C4. Il faut être précis et circonstancié.
Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces explications très complètes et très claires. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail.
SOCAST vous est proposé par Sotra, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.